Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, Matière à penser consacrée à des colonies. Des colonies, Frantz Fanon disait qu'elles étaient des lieux d'épouvante. On n'a pas voulu le voir, mais aujourd'hui, les fantômes reviennent. Et ils reviennent pour chacun d'entre nous. Comment sortir de la grande nuit, se demande aujourd'hui Achille Mbembe. Ben justement, en pensant la post-colonie. Voilà pourquoi le titre de cette semaine s'entend aussi, sinon comme une injonction, du moins comme une tâche. Décoloniser, c'est l'affaire de tous. Et cela commence évidemment par un exercice sur soi, ce qu'on appelle la décolonisation du regard. Voir l'œil qui nous regarde, c'est ce à quoi, normalement, s'attache l'histoire de l'art, ou du moins une certaine histoire de l'art. Et voilà pourquoi je suis vraiment heureux de recevoir aujourd'hui Anne Lafont, qui s'attache au fond, en tant qu'historienne de l'art, à rendre visible. Bonsoir Anne Lafont.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Oui, c'est ça au fond un historien de l'art, c'est simplement ça, disait Daniel Arras, c'est quelqu'un qui donne à voir, qui rend visible.
Alors oui, c'est certainement en tout cas la tâche première, ou qui met en mots en tout cas ce qu'il voit, et qui, en déployant finalement tout ce qu'il regarde, oui, par la transcription, par le discours, hein, donne à voir en fin de compte, puisque on est face, quand on est historien de l'art, on est face à un matériel visuel mais aussi artistique, donc il y a une dimension aussi quand même esthétique qui a lieu, qu'il faut décrire aussi, qui va un petit peu au-delà juste de la description précisément. Et en effet, un historien de l'art tente de partager à la fois l'expérience esthétique, je crois, et en même temps ce qui pourrait être dans le système des images, quelque chose d'un peu caché et qu'il faut révéler par le discours, ou en déployant finalement les motifs que l'on peut avoir sous les yeux.
Et ce partage du sensible, c'est évidemment une tâche politique, puisque on parle beaucoup, et on va parler ensemble, Anne Lafont, de notre situation face aux images, mais pas seulement, j'allais dire, face à l'imagerie, face aux clichés. Et on dit des femmes, des minorités, justement, qu'elles sont invisibilisées et qu'il faut les mettre devant.
Oui. En effet, il y a tout un travail à faire, et que nous sommes quand même quelques-uns et quelques-unes maintenant à partager, à rendre visible à la fois dans la société actuelle, c'est sûr, enfin des voix qui sont peu entendues, des gens qui sont peu écoutés, mais aussi dans l'histoire. Et c'est peut-être là ce que je me suis proposé comme tâche en fait ces 10 dernières années même, c'est de non seulement de donner à voir aujourd'hui, mais aussi de comprendre comment la légitimité en quelque sorte de ces voix d'aujourd'hui qui sont peu écoutées ou peu entendues vient aussi du fait qu'il y a une histoire longue de leur présence et de leur participation finalement à la vie citoyenne et à leur présence dans les arts. Et j'ai choisi un peu par les hasards finalement de la vie d'ancrer mon travail sur le XVIIIe siècle et le matériel visuel artistique comme source première, finalement, de l'écriture de cette histoire, de la participation, pour le dire un peu vite, noire, donc, à la vie du monde.
C'est ça. Et ces 10 ans d'enquête confluent aujourd'hui dans un magnifique livre publié aux Presses du Réel, un formidable éditeur, L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières. Anne Lafont, vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous étiez maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous avez beaucoup travaillé à l'INHA. Mais vous avez aussi, et ça m'intéresserait qu'on en parle, une expérience atlantique, au fond. Vous avez travaillé au Canada. C'est important pour justement constituer ces corpus. En l'occurrence, c'est un corpus transatlantique, mais au-delà de considérer au fond que l'art, c'est pas seulement l'œuvre d'art telle que les musées l'entendent, c'est toute la culture visuelle.
Oui, alors je pense que effectivement ça a été une grande chance dans ma formation de passer quand même 5 années à Montréal et dans une histoire de l'art qui ne se satisfaisait pas de la question patrimoniale, et peut-être que s'est développé finalement dans les mondes nord-américains, un rapport à l'objet d'art, un rapport à l'image en je dirais, en système de pénurie, finalement, hein, par rapport au musée français, où il y a déjà tellement à faire avec l'œuvre d'art ou le chef-d'œuvre et le patrimoine qui est disponible, notamment à Paris, mais un peu partout en Europe et en France. Et donc, la pénurie, le fait qu'on ait très, très peu d'œuvres d'art, oblige à penser autrement le rapport, justement, au chef-d'œuvre. Et je crois que c'est ce qui explique en partie, en tout cas, la manière dont les études nord-américaines ont développé des approches qui ont multiplié finalement les objets qui pouvaient rentrer dans le giron de l'histoire de l'art comme discipline étendue ou agrandie finalement par le fait qu'elle pluralise finalement ses sources. Donc le chef-d'œuvre ne se suffisait plus à lui-même et il fallait regarder en quelque sorte et puis travailler à des corpus qui étaient beaucoup plus hétérogènes, qui organisaient des dialogues entre les objets eux-mêmes, des régimes, je dirais, de visibilité qui étaient différents, mais qui accroissaient aussi l'intérêt que l'on pouvait porter au chef-d'œuvre lui-même. C'est-à-dire que ça n'ôte rien.
Ça n'enlève rien. D'une manière générale, c'est de ça dont on doit parler, Anne Lafont, c'est qu'au fond, c'est une histoire qui ne retranche rien à personne, et surtout pas dans les musées, on va en parler, mais qui tranche des situations et des catégories, en particulier l'art et la race, on va y revenir. Ce sont deux mots terribles, j'allais dire également terribles. Également terribles que vous avez courageusement, crânement décidé de porter sur la couverture de votre livre. Parce qu'au fond, est-ce que l'art comme la race ne sont pas deux catégories de la domination ?
Alors bon, je vous remercie beaucoup Patrick Boucheron de me poser la question comme ça d'entrée, et puis d'avoir saisi finalement que je voulais ne pas prendre ça par la petite porte pour une fois, même si j'avais beaucoup travaillé sur des petites choses, j'avais envie quand même que pour le titre il y ait une ambition d'entrée de se confronter finalement à ces deux catégories, des catégories de la domination. Alors
pour l'art, vous aurez peut-être du mal à la...
Non, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que dans leur acception, je dirais, assez traditionnelle, effectivement, l'association du chef-d'œuvre à une culture élitiste, qui est celle souvent des possédants et même des sachants, la race, dans son lien direct, je dirais, avec le racisme, est aussi certainement une catégorie de la domination. Mais précisément, dans ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'était de les prendre un petit peu autrement et de voir comment il y avait une possibilité de les entendre de manière différente. C'est-à-dire que j'ai voulu travailler la race avant le racisme et travailler l'art comme une expérience esthétique et non pas comme un objet qui est donné comme étant ultime ou canonique, etc. Donc précisément, j'ai mis de l'avant en quelque sorte ces deux catégories qui ont une signification qui peut être comme ça un peu effectivement d'affront. Et en même temps, je voulais montrer que lorsqu'on ramifie un peu la compréhension de ces deux champs, on peut dire, et quand on les associe, on est obligé de les prendre autrement. Et pour l'Ancien Régime, la race, ça n'est pas tout de suite le racisme.
C'est ça.
Ça n'est pas tout de suite le racisme. C'est rendre le monde intelligible et on propose finalement la possibilité de... On a déjà, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la race, en fin de compte, c'est plutôt les nobles, le sang bleu, en fin de compte, hein, et puis à l'opposé les juifs. Et tout à coup, par le biais d'un voyageur qui décide de se réapproprier finalement cette catégorisation qui est d'abord sociale, hein, essentiellement, de l'utiliser pour rendre intelligible le monde qu'il est en train de découvrir. C'est-à-dire que, voyant que finalement il y a beaucoup de choses très très proches, mais aussi lointaines, hein, dans les différentes populations qui peuplent le monde, il va falloir organiser un système qui puisse désigner à la fois le même et le différent. Et là, il pense à 3, 4, 5 catégories de couleurs de peau qui pourraient être opératoires. Et c'est là que la race devient non plus seulement la manière de désigner les nobles, mais bien de désigner finalement la race noire ou la race caucasienne ou la race jaune ou la race blanche.
Et on est d'ailleurs dans ces années-là, en 1684, 1685, l'année du code noir, l'année où effectivement les quatre peaux blanche, noire, rouge, jaune, qu'on apprend à reconnaître aux enfants, parce que un enfant spontanément ne voit pas les gens noirs.
Jusqu'à un certain âge.
Jusqu'à un certain âge où il est bien obligé.
Voilà. Et en général, il parle de marron plus que de noir.
Ça, je confirme. Et justement, puisque vous parlez dans ce livre, Anne Lafont, l'art et la race de ces catégories avant le racisme scientifique, on va dire, de cette culture visuelle de la race, c'est le moment donc où la race du sang arrive à l'incarnation. Et donc, au fond, le système de la classification du monde va se faire en fonction de la couleur de la peau, et l'art y participe.
L'art y participe à fond. Absolument, parce que si on reconnaît comme une spécificité de la peinture la question de la couleur, par rapport aux autres arts, la sculpture, la gravure, le dessin, etc., c'est vraiment, la peinture est en lien direct avec la couleur. Du coup, toute la question de la pigmentation, la question de représenter la différence, passe par la couleur de la peau. Et effectivement, on voit tout au long du XVIIIe siècle, finalement, le concours des images, vraiment, dans l'édification de la race comme intelligibilité du monde, encore une fois. Et aussi, je veux juste ajouter peut-être que c'est pas pour mettre de côté l'esclavage et toute la violence qui va avec, mais il faut comprendre aussi qu'il y a une dynamique, si vous voulez, de désir de connaissance qui n'enlève pas la violence, mais qu'il faut comprendre aussi de manière, je dirais, parallèle finalement à ce système de domination et de violence inouïe qu'a été celui de l'esclavage. Et donc j'ai essayé de m'intéresser à la collaboration finalement des naturalistes et des artistes dans leur édification justement d'un système racial avant d'être raciste. Et d'ailleurs, ça n'était pas tout à fait exempt de racisme à ce moment-là. Mais il y a aussi une quête savante qui passe par la couleur de la peau et qui prend comme principal allié, finalement, la peinture et les arts visuels en général.
Oui, vous travaillez depuis longtemps, Anne Lafont, sur ces circulations entre les savoirs naturalistes et la culture visuelle. Mais là, évidemment, c'est pour les besoins, j'allais dire, d'une démonstration qui est poignante, parce qu'on voit bien d'une certaine manière où ça va, C'est-à-dire que cette démonstration, elle commence d'ailleurs, nous parlions de 1684, 1685, pas tout à fait au hasard, puisque la porte d'entrée de votre livre, c'est un petit tableau d'Antoine Coypel, jeune noir tenant une corbeille de fruits et jeune fille caressant un chien. Tableau de genre, petit tableau, pas tout à fait un portrait, et une confrontation, au fond, ce tout contre que vous cherchez dans ce livre, entre une peau blanche et une peau noire.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est probablement le premier tableau, en tout cas dans ma connaissance actuelle, je dirais, des corpus français, le premier tableau français où il y a comme ça cette cohabitation, dans un rapport d'ailleurs qui ne sera pas celui qui s'imposera par la suite, puisqu'il n'y a pas de relation, je dirais, hiérarchique, explicite dans cette jeune femme blanche et ce jeune homme noir. Et même à l'inverse, le jeune homme noir occupe plutôt toute la place. Je dirais, du tableau, alors qu'on verra chez l'argile ou chez Mignard plus tard qu'il y a une inversion finalement des proportions et aussi en termes de format, enfin d'image, ça veut dire aussi une inversion hiérarchique, c'est-à-dire que l'aristocrate blanc sera toujours plus grand, occupera plus d'espace aussi dans le tableau que le serviteur ou la servante noire, parce qu'il y a aussi quand même quelques femmes. Mais c'est vrai que j'ai voulu travailler finalement avec comprendre à quel point les arts visuels et les savoirs fonctionnent ensemble, parce que c'est une réalité, c'est-à-dire que j'ai voulu aussi travailler à l'art comme savoir, c'est-à-dire que on prend souvent ce matériel-là comme étant une source finalement pour comprendre des choses, mais je voulais aussi montrer la dimension de l'image comme preuve, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans le silence de l'image, dans le temps unique de l'image, quelque chose qui impose finalement au regardeur une vérité, une évidence, qui n'est pas de l'ordre de la description ou de l'argumentation comme peut l'être un texte. Et finalement, j'ai dans ce travail là, il était évident que les naturalistes cherchaient, par exemple, d'où venait la couleur des nègres, comme ils disaient à l'époque, hein, essayaient de comprendre, donc, avec des traités assez sophistiqués, où ils essayaient de voir même sous la peau ce qu'il y avait comme strates qui pouvait expliquer le déclencheur de la pigmentation. Et à côté de ça, ils mettaient une image qui était censée conclure finalement la démonstration du savant. Donc il y avait la possibilité, en prenant l'art comme savoir, de voir à quel point l'image a été l'allié finalement de démonstrations qui pouvaient être un peu chaotiques dans leur manière d'être articulées, mais qui par l'image prenaient une place finalement dans l'imaginaire public. Donc j'ai essayé de travailler, ça c'est ce qui me semble intéressant, l'image comme source vraiment, pour voir un peu les relations qui peuvent se nouer entre les uns et les autres, mais aussi comme preuve, oui. Comment elle agit comme preuve dans les moments où il faut fixer finalement des relations sociales qui peuvent être un petit peu compliquées.
Oui, parce que l'art comme savoir et l'œuvre comme événement visuel, dites-vous, Anne Lafont, à un moment où il faut fixer les choses, et de manière obsessionnelle, parce que évidemment la grande hantise de cette société, c'est le métissage. Et donc, cette histoire de la présence des Noirs en peinture, elle vous amène d'abord à faire l'histoire de la blancheur. C'est votre premier chapitre,
oui.
Parce que, évidemment, alors on sait que à ce moment-là, cette histoire de la peinture, elle oppose les coloristes aux dessinateurs, enfin à ceux qui veulent encore tenir le primat du dessin. Mais pour ceux qui en tiennent à la couleur, il y a cette question, effectivement, de défendre la blancheur et vous montrer magnifiquement, à la fois avec des images, mais aussi avec des textes, avec l'histoire des pratiques, du phare, etc., que la peau blanche est l'écran des émotions pour le XVIIIe siècle, et c'est bien pour cela que les Noirs sortent au fond de la communauté des êtres sensibles, parce que leur peau ne permet pas d'exprimer une quelconque émotion.
Croit-on, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est assez intéressant, parce qu'il faut suivre des fils qui sont pas comme ça évidents, et puis il faut pousser un petit peu, contracter, je dirais, les sources pour arriver à faire ces propositions-là. Et c'est vrai que quand j'ai lu les notes sur la Virginie de Jefferson, donc il écrit en 1783, et qu'il publie, qu'il écrit à Paris, si je me rappelle bien d'ailleurs.
Oui, c'est une histoire atlantique, d'ailleurs,
voilà,
de ce point
absolument.
De vue-là.
Mais on a la compréhension de l'attachement à la blancheur. Il y a évidemment l'angoisse du métissage qui plane depuis un siècle et demi, hein, avec les colonies. Mais il y a aussi la justification finalement de la fondation de cette nouvelle société américaine qui se veut émancipée, qui se veut inspirer aussi des Lumières, mais qui n'inclura pas donc les Noirs dans cette nouvelle citoyenneté. Et pour le justifier, il trouve un argument qui est proprement un argument artistique, à la fois l'expression des passions, qui est un des grands enjeux, je dirais, de la peinture académique, enfin une des zones à laquelle on peut juger d'un grand peintre, s'il est capable de représenter l'expression, et puis le fait que, justement, la couleur sombre de la peau ferait écran à la lisibilité, finalement, de l'autre, et amènerait à l'impossibilité, effectivement, de partager la citoyenneté. Donc, on voit comme l'art, peut-être, c'est là où je dis qu'il y a une dimension de preuve et d'allié vraiment efficace, parce que ça n'est pas toujours de la démonstration, justement, on voit comme l'art a travaillé aussi Jefferson pour trouver finalement des arguments qui le conduisent ou qui les conduisent, les Américains, donc à maintenir, même dans ce nouveau pays finalement, l'exclusion des Noirs.
Alors ce partage du monde par la couleur de la peau, tout finit par le démentir évidemment, et la peinture porte aussi témoignage de ces hésitations, y compris d'ailleurs lorsqu'elle donne à voir des accidents dermatologiques ou chromatiques. Qu'est-ce que c'est qu'un albinos, qu'un noir qui est plus blanc que les blancs, tout cela met en déroute au fond cette classification visuelle, jusqu'à ce que évidemment on l'abandonne à l'orée justement du racisme scientifique, et qu'on se mette à mesurer les crânes. Mais Il y aurait donc une première manière de traverser votre livre, simple, trop simple par rapport effectivement à la complexité et la densité de votre écriture, Anne Lafont, c'est de dire, bah voilà, c'est un livre sur la présence des Africains dans l'art, qui au départ sont ces comparses, vous parlez de jouets vivants, hein, c'est-à-dire des petits serviteurs sans importance et qui à la fin accèdent au rang révolutionnaire. Du personnage historique.
Oui, alors bah,
avec le portrait de Boissel,
de Bellé par Giraudet. Oui, c'est aussi cette histoire-là. Enfin, je veux pas faire une histoire trop enchantée. Enfin, de cette progression qui serait comme ça, qui passerait du serviteur au citoyen, voire à l'homme politique. Mais elle est là aussi. Elle est non seulement évidente lorsqu'on s'attache à l'histoire politique, enfin du changement du statut des Noirs en France. Et en France, dans le monde impérial français, mais elle est aussi présente en images. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu montrer, c'est que les formats, les médias, finalement l'imaginaire politique autorise des modes de représentation qui se transforment aussi. Donc on voit aussi une histoire de l'art plus formaliste finalement avoir lieu en suivant la personnalité ou les personnages africains plutôt dans les arts visuels.
Avec quand même des paradoxes pareil, parce que Toussaint Louverture, par exemple, n'est jamais représenté. C'est-à-dire qu'il y a eu un imaginaire, mais il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas d'image, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et qui est très modeste, très, très humble, où il est portraituré finalement à son arrivée de bateau avant d'être emprisonné, où il mourra en France. Toussaint Louverture n'a pas croisé non plus des artistes européens, c'est-à-dire selon nos catégories du chef-d'œuvre, hein, puisqu'il est venu que très tardivement finalement en France. Et c'est vrai que c'est le anti-héros, si on se place seulement du point de vue des images. Et c'est là où il est aussi intéressant de s'interroger sur la manière dont on fait l'histoire de l'art. Si certains voudraient nous emmener vers une histoire de l'art très exclusive et très centrée finalement sur les œuvres d'art, elle est insuffisante à les comprendre. Il faut aussi connaître l'histoire politique finalement pour contextualiser l'absence d'images qui, en tout cas dans mon travail, m'intéresse autant que la présence des images elles-mêmes.
Maman me voyait me peser café, moi. En arrivant dans ce potage, je ne m'aimerais arrêter. Maman me voyait me peser café, moi.
Toujours en compagnie d'Anne Lafont pour son livre « L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières » qui est paru cette année aux Presses du Réel. Vous êtes venue avec une bien belle musique.
Merci. Ça m'a coûté de choisir parce que j'écoute beaucoup de musique, mais j'étais contente de partager ce morceau-là. C'est une Américaine mais qui vient de la diaspora haïtienne et dont les parents étaient des activistes pour les droits de l'homme, très engagés. et qui fait une musique, qui a décidé de s'installer à la Nouvelle-Orléans et qui fait une musique vraiment qui correspond, je dirais, à un horizon américain qui m'intéresse particulièrement. Je crois que son époux est aussi compagnon de trio, enfin, qui joue avec elle, est québécois. Mm-hmm. Et ça représente un peu, voilà, comment je me suis intéressée moi-même à ces objets-là, dans un lien fort avec le Québec et ces mondes des Amériques françaises, même anciennes, mais beaucoup liées au XVIIIe siècle. Donc l'entendre chanter en créole, elle chante en anglais, en français, en créole. C'était intéressant pour moi.
Oui, parce qu'en fait, Anne Lafon, on parle évidemment de sujets durs et graves et clivants et d'histoire, on l'a dit, de domination et de classification, mais vous vous intéressez aussi à tout ce qui circule. Vous vous intéressez d'abord, au fond, à ces objets décoratifs, on en a parlé, à décloisonner l'histoire de l'art, à rendre visible. Et ce livre, je m'empresse de le dire, il nous emporte aussi parce que, au fond, il n'est pas désespéré. Du point de vue, y compris de la représentation, on voit très bien que l'art prend en charge, au fond, et c'est peut-être ça qui est dans le sous-titre, bien sûr que c'est une confrontation, mais le tout contre l'œil des Lumières, fait que, au fond, cette question, elle est obsessionnelle pour les Lumières. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que c'est invisible, mais c'est obsessionnel. Donc, au fond, vous êtes une historienne du point aveugle.
Ah bah écoutez, merci Patrick Boucheron, c'est très gentil à vous de le formuler comme ça, j'étais pas allée jusque là. J'ai un intérêt très grand pour ce que l'on ne voit pas, même dans le champ du tableau, vraiment donc ça me fait plaisir que vous l'ayez senti à la lecture. Pour ce qui est d'une histoire qui n'est pas, histoire de l'art qui n'est pas désespérée, ça vous avez touché juste, je crois que j'ai vraiment toutes mes interventions, en tout cas dans le champ de l'histoire de l'art, sont des projets de construction, c'est-à-dire que face à ce qui est indéniablement un moment tragique de l'histoire, je trouve plus productif et plus fécond, et aussi c'est l'instinct de survie un peu personnel, d'aller chercher ce qu'il y avait d'encore ouvert, d'encore créatif, et qui laissait finalement un tout petit peu de place à l'imagination, à la production, et même en négatif, c'est-à-dire que même dans des images, dans des œuvres d'art qui sont fabriquées pour 98% dans mon corpus par des hommes blancs, il faut bien le dire tel quel, il y a des traces justement d'une inventivité noire. Et il m'intéresse plus finalement d'aller chercher ça, d'y travailler, que de ne faire que l'histoire, que je ne nie pas encore une fois, mais que l'histoire justement et de l'esclavage et du racisme dans leur dimension inhumaine.
Que vous faites très bien, mais au fond, en tant qu'historienne des images, vous vous intéressez d'abord à leur ubiquité, Anne Lafon, et au fond, c'est aussi peut-être un livre sur les limites de l'interprétation. Par exemple, à la toute fin, lorsque vous vous intéressez à ce que vous appelez magnifiquement les africaneries, qui sont moins nombreuses que les chinoiseries ou les turqueries, c'est-à-dire que même l'exotisme est limité. Bon, on a ces pendules à nègres, voilà, qu'on attribue à Marie-Antoinette, hein. Et vous montrez très bien que, au fond, les rabattre sur, on va dire, l'exotisme rococo, c'est pas suffisant, parce que il y a autre chose dans ce rapport au temps, il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas que péjoratif et folklorique.
Oui, alors ça c'est aussi une partie du livre qui a beaucoup compté, parce que à un moment donné, comme on le disait, puis finalement ça revient dans notre discussion, cette question du point aveugle, de ce qui n'est pas là ou de ce qui est différent, etc. J'ai constaté que s'il y avait des personnages noirs, un imaginaire noir et même des matériaux associés finalement à des régions du monde comme l'Afrique ou les Caraïbes qui étaient liés aux différents mondes noirs, je dirais, il n'y avait pas dans le vocabulaire de l'époque, ni après, un moyen de les distinguer comme étant un tout ou un corpus ou quelque chose qui témoignent finalement de cet imaginaire, comme les chinoiseries, les turqueries, etc. Donc j'ai décidé de forger cette idée d'africanerie pour obliger à poser le regard là-dessus. Et pour aussi que l'on puisse voir effectivement les limites de l'exotisme. Hein. L'exotisme est vraiment le rival ou le lieu depuis lequel on peut se définir soi. Et il y a un autre monde qui est sans nom encore à ce moment-là, qui serait celui des africaneries et qui correspond aussi à un imaginaire qui est davantage lié justement à l'ambition impériale, coloniale, etc. Donc qui ne peut être restreint finalement au régime rococo, qui était celui du plaisir en quelque oui. sorte. Hein. Donc et là j'ai essayé de travailler sur le fait qu'effectivement le sommet, je dirais, de cette production d'africanerie, ce sont les pendules aux nègres autour de 1800, et que le fait qu'on articule finalement le corps noir sujet, enfin, esclave, exploité autant, c'est une manière de faire un raccourci dans les deux moteurs de la colonie, c'est-à-dire à la fois la manière dont va se développer tout au long du 19e siècle, vont se développer d'ailleurs les transports, dans les colonies, vers les colonies, hein, notamment avec les machines à vapeur, hein, et en même temps les ressources naturelles qui sont produites par les corps laborieux noirs, en quelque sorte, que sont les esclaves des colonies, surtout antillaises.
Et là, si on vous entend bien, la faune est vraiment, je crois, au cœur de ce qui nous préoccupe ou de ce à quoi on doit s'affairer pour décoloniser notre regard. Vous avez dit, au fond, il faut inventer des mots pour nous obliger à porter le regard vers ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et ça, c'est finalement la tâche du contemporain. Vous le faites de bien des manières. Vous avez publié toujours aux presses du réel en deux volumes des plumes et des pinceaux pour rendre justice au discours et aux pratiques des femmes sur l'art. Et puis, parlons un petit peu, puisque vous vouliez montrer que finalement vous êtes adepte d'une histoire de l'art qui n'est pas désespérée. L'année 2019, ça a été quand même une année bouleversante, parce que non seulement votre livre paraît, L'art et la race, mais vous êtes une des commissaires de la grande et formidable exposition du musée d'Orsay sur le modèle noir, et puis c'est aussi l'année 2019 de parution du rapport Felwinsar-Bénédicte Savoie sur la restitution des objets africains. Donc, il se passe quelque chose quand même. Quel regard vous portez sur le diagnostic du contemporain ?
Alors, il se passe absolument quelque chose. Vous avez tout à fait raison, Patrick Bouchon. L'année 2019 a été un moment phare, je dirais, clé aussi dans la manière dont on peut envisager une contribution artistique dans le temps et aujourd'hui, finalement, des populations noires. On peut dire ça comme ça. Ce qui est flagrant, c'est que il y a un intérêt qui est partagé par les concitoyens, je dirais, mais aussi par les institutions culturelles, par le temps politique, enfin, qui manifeste un intérêt pour renouer peut-être avec cette histoire et aussi avec des populations qui se font entendre aussi. Hein. Vous parliez de décoloniser les arts, enfin, ce groupe associatif, puisque c'est une association. On a tendance des fois à penser que c'est un mouvement intellectuel, académique, organisé. Ça
non,
n'est pas le cas.
Ça vient d'une association.
Voilà,
c'est une pratique sociale.
Tout à fait, et de légitime, de revendication, un peu outrée parfois, qui montre aussi des choses que sinon on ne regarderait pas, donc il y a son utilité. Ça n'est pas encore, je dirais, un corpus théorique articulé sur lequel on peut fonder des travaux. Donc,
mais vous regardez ça avec intérêt.
Avec beaucoup d'intérêt. Et je dirais même que c'est eux qui pointent les choses à regarder.
Donc ils nous obligent à regarder ce qu'on ne voit pas.
Voilà. Maintenant, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai entendu, il m'a semblé qu'il n'y avait pas toujours les réponses, mais les questions sont toujours très pertinentes. Et la mobilisation fait en sorte que l'on puisse, nous, en tant que chercheurs, après travailler sur ces choses-là. Donc, il y a une alliance à faire aussi avec décoloniser les arts, même si les formes ou, je dirais, la tendance à vouloir une réponse figée ou autoritaire même d'une certaine manière me paraît parfois pas tout à fait convenir. Mais je pense quand même que c'est ces mouvements-là qui conduisent aussi les pouvoirs publics et les institutions culturelles à prendre en charge aussi cette histoire-là. Le musée est très frileux dans son ensemble, très très frileux, désespérément frileux, alors qu'ils ont, c'est une agora peut-être la plus ouverte possible aujourd'hui, hein, des lieux je pense où on peut faire le plus de choses. Ils sont ils ont des collections en plus en France et à Paris incroyables, ils ont des salles de spectacle, ils ont des moyens quand même, il faut le dire aussi. Donc il y a une peur de stratifier les interprétations des œuvres d'art. Au lieu de pluraliser les interventions, les compréhensions des œuvres d'art, il y a quelque chose qui est encore très, je dirais, très traditionnel, voire très conservateur, et ça, on s'en étonne moins. Et je trouve que là, pour le coup, le musée d'Orsay a fait un pas en avant, et en travaillant... alors peut-être que je dois quand même rectifier quelque chose, parce que vous savez, toutes ces choses-là sont très importantes. Je n'ai pas été co-commissaire.
Ah oui, pardon, vous étiez au conseil scientifique. Au conseil scientifique.
Exactement. Et la grande différence, c'est qu'on n'accroche pas. Et ça, j'y tiens parce que, voilà, j'étais pas associée à l'accrochage et qu'on ne fait pas tout à fait la liste d'œuvres. Et ça peut paraître un peu, comment dire, superficiel, mais ça change quand même le contenu.
Mais vous avez quand même accompagné scientifiquement cette exposition. Vous avez écrit aussi sur l'Africaine au musée, qui est très beau livre aussi, qui d'une certaine manière est comme un raccourci en fait de celui dont on parle, l'art et la race. Et vous avez aussi publié un petit article dans la revue Esprit sur le pendant pédagogique ou éducatif. De cette exposition Le Modèle Noir, qui était au quatrième étage plus haut, qui s'appelait Le Modèle Noir d'Achille à Zineb. C'était en fait des réalisations graphiques,
des œuvres d'art.
Même magnifiques.
Absolument. Vraiment saisissantes.
D'intervention, d'intelligence, de réaction et d'invention. Des collégiens, donc, qui s'emparaient, en fait, de ce thème pour en faire quelque chose. Vous pouvez nous raconter un peu, parce que je trouvais ça justement très beau sur l'énergie, voilà, l'énergie sociale et la pratique.
Oui, tout à fait. Alors, il y avait deux niveaux, je dirais, de réaction. Tout d'abord, reprendre un certain nombre de chefs-d'œuvre qui étaient exposés dans l'exposition et y travailler pendant une année pour essayer d'être en réponse, on peut dire, avec ces œuvres-là. Et puis, par ailleurs, se donner l'espace pour actualiser quand même cette exposition qui date du 19e siècle. Donc, il y a eu des choses très... très belle aussi sur la question de l'identité, de l'espace possible d'invention, notamment en France. Enfin, les œuvres étaient très justes et ils ont fait tout un appareillage, je dirais... didactique, quoi, à côté, en réalisant les cartels aussi pour les expliquer. Et là, on retrouve vraiment des interventions qui sont des interventions artistiques et des interventions politiques, et selon moi d'ailleurs, l'un et l'autre ne peuvent jamais être séparés, qui sont tout à fait conscientes. Donc on sent, et le musée d'Orsay est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire a fait vraiment une exposition de ces œuvres-là en pendant de l'exposition majeur, si on peut dire, qui fonctionnait très très bien. Donc c'est vrai que par rapport à tous ces débats qu'on a eus autour de l'appropriation culturelle, qu'est-ce que ça veut dire finalement se saisir de quelque chose qui existe, se l'approprier et le reprendre à son compte, qui est tout à fait positif et qui doit être entendu aussi. Ces jeunes gens, ils venaient de lycées, de collèges parisiens ou de la banlieue parisienne, incapables de dire d'ailleurs d'où ils venaient, en regardant ce qu'ils avaient fait. Et je trouve qu'il y a là encore, peut-être que c'est une obsession chez moi, enfin, plutôt que de s'enfermer dans l'appropriation culturelle autour d'un risque de perdre le contrôle finalement sur ce qui serait soi, hein, parce que c'est un peu ça quand même, il y a une possibilité de voir comment on peut infuser d'abord la société, hein, vraiment l'infuser en proposant des choses nouvelles sur le plan artistique, mais aussi comment des jeunes gens qui rentrent en dialogue avec l'art du 19e siècle arrivent à le rebooster en fin de compte avec leurs questions d'aujourd'hui. Il y avait par exemple quelque chose sur une série de cartes d'identité un peu à la Warhol qui était tout à fait intéressant.
Et qui rejoignait vos thèmes parce que lorsqu'il peignait Mandela par exemple, il peignait de toutes les couleurs littéralement.
Hein,
c'est-à-dire que là, la couleur noire, elle était vraiment diffracté, explosé. Oui. Et justement, si le rapport de contemporanéité avec l'autre débat sur la restitution des œuvres africaines, vous l'avez soutenu puisque vous avez écrit dans AOC que voilà que les musées français ne peuvent pas accueillir toute la beauté du monde. Là encore, peut-être que votre expérience du musée américain ou canadien vous aide à décloisonner un peu notre regard.
Oui, alors je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu peu d'expérience avec les musées quand même en Amérique du Nord pour l'instant, quelques-unes.
Au Getty, non ?
Au Getty, oui, j'y suis allée, mais alors bon, c'était au Research Institute.
Oui.
Donc non, assez peu finalement, mais c'est un temps tout à fait, alors pour le coup, pour ma part, qui était tout à fait imprévisible, cette ouverture du politique appelant les chercheurs finalement à se positionner, à faire un diagnostic, à proposer aussi des avenues pour penser cette restitution des objets d'art, qui a ouvert toute une discussion qui n'avait jamais eu lieu en France. Donc c'est un phénomène remarquable, avec des propositions très concrètes, mais aussi théoriques et utopiques, tout à fait formidablement, je dirais...
Sur la vie sociale de l'objet
aussi. Sur la vie sociale de l'objet, de ce qu'il fait.
De ce qu'il fait, de ce qu'il fait à une société.
Absolument. Et de ce qu'il peut faire. Et aussi de prendre en compte le fait que même cette circulation, même ce passage finalement par le musée européen participe de son étoffe désormais et peut le renforcer dans cette vie à venir qui n'est jamais définitive. Donc toute l'énergie qui a entouré la commande de Macron et le rapport, effectivement, de Sarre-Savoie, toutes ces discussions, mais qui sont quand même un peu bloquées, me semble-t-il, ont été fécondes, finalement, pour nous tous, qui attendions depuis quelques années, quand même, qu'il se passe quelque chose, sans penser que ça viendrait d'en haut, finalement. C'est ce qui nous a le plus surpris. Et il y a quand même des chercheurs qui travaillaient sur ces choses-là depuis longtemps, qui avaient noué... par le menu, enfin des liens étroits entre, pour le dire très très vite, entre la France et l'Afrique, qui sont vus rattrapés par quelque chose qui était plus fort en quelque sorte et qui doit désormais surtout aboutir.
Donc quelque chose s'est ouvert, Anne Lafont, en 2019, ou en tout cas on voit bien qu'il y a...
Il y a un élan.
Un élan, qu'on parle de ces sujets-là, mais on peut aussi, comme historien, penser que voilà, un retour de bâton est toujours possible et que au fond cet élan il peut aussi nous laisser vigilants sur la possibilité d'une réaction.
Oui. Alors, elle est même déjà sous certains aspects et venant peut-être de personnes qu'on n'aurait pas soupçonnées, déjà même un peu présentes. Il y a une forme de suspicion d'une partie des intellectuels quant à, je dirais, une prise communautariste, finalement, de ces questions-là.
Ce sont des débats sur l'intersectionnalité.
Par exemple.
Mais pas seulement.
Aussi sur une crainte de voir, par exemple, ces militants associatifs... entrer dans l'université et empêcher le débat, ce qui est une angoisse que j'entends, mais qui est complètement, à mon avis, complètement infondée et qui ne doit pas aussi empêcher la discussion et le fait de porter pour nous tous, parce qu'il va bien falloir le vivre ensemble, ce monde commun, pour nous tous, aussi cette histoire-là, hein, qui participe d'une histoire partagée, d'une histoire qui sera peut-être un petit peu moins asymétrique dans la manière dont on va l'écrire aussi, et qui n'est pas un danger pour l'universalité de l'université précisément, qui est un concours, justement, une complexification. Et alors là, bon, on peut... Alors, il y a ce côté-là, peut-être aussi deux types de concurrence qui sont en train de poindre, qui seraient peut-être le retour de bâton que vous mentionniez. Concurrence des mémoires, mais bon, j'ai tendance à croire que effectivement, c'est complètement absurde de penser comme ça. Et puis, plus récemment, un risque de la concurrence, peut-être des expériences blessées de la citoyenneté depuis les Gilets jaunes. Alors, on pourrait craindre ça. Mais bon, moi, je crois à une intelligence populaire plus grande pour partager plutôt que de se mettre en situation justement concurrentielle.
Merci Anne Lafont.
Merci beaucoup Patrick Bouchon.
Matière à penser, Anne Lafont, Manu Couturier, Sandrine Chaperon, Justine Wild, Catherine Donné, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. À demain.